L'entourage, présenté par Kevin Elarbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Belakwa, orpheline, a été élevée pendant 12 ans au Jardin College d'Oxford. Pour échapper à l'ennui, elle fait les 400 coups avec son meilleur ami Roger, cuisinier, et se rêve exploratrice. Depuis son plus jeune âge, elle traîne une obsession, celle de partir à la découverte du Nord avec son oncle, Lord Asriel, qu'elle admire malgré la distance qu'il met entre eux. Mais dans un Oxford faussement sécurisant, contrôlé par le Magisterium, qui n'est pas sans rappeler notre Église catholique, des enfants et leurs demons, la représentation animale de leur âme, séparés de leur corps, se font enlever et le quotidien de Lyra est bouleversé. C'est ainsi que débute le premier volet de la saga magistrale Is Dark Materials à la croisée des mondes, écrit par Philip Pullman, dont la première partie de l'adaptation de HBO et de la BBC fut diffusée l'an dernier. La suite des aventures de Lyra se dévoile dans une saison 2, diffusée en simultané dans le monde entier et en France sur OCS. Voyageons sur Beta Série La Radio et en podcast dans cet univers fantastique dont la legacy sera majeure pour le genre fantasy, influencé par les grands frères Tolkien ou Martin et ainsi les grandes sœurs Game of Thrones et Lord of the Rings.
Gentlemen, there is a war raging right now with the Magisterium. Between those trying to keep us in ignorance and those willing to fight for truth and freedom. Who will stand with me?
This kind of heresy is of the highest priority to the Magisterium. I need to know where he's going and what he intends to achieve.
Bronk was packing up to leave.
You're not leaving!
I can't stay! The North is no place for a child.
Lyra, the Master's asked if I can find a place for you. And I want you as my assistant.
You're an explorer too, just like my uncle.
I can teach you to wield power, but you must let me mold you.
We believe there is an organization that is stealing children and taking them north.
Sometimes children can just disappear.
I promised to do everything I could to protect you from harm. This, it's an alethiometer. It is illegal unless approved by the Magisterium.
What does it do?
It tells you the truth. She has to make a journey. One which I'm afraid includes a great betrayal.
To warn me of something.
I suspect it's trying to warn you of everything.
He scores me. I can fight. I can fly.
What question should we be asking you that we are not?
The Magisterium have muscle. I would ask where I could obtain services of an armored bear.
Yorick Bernison. I'm ready to fight.
These people need our help, Yorick. Let's go give it.
How am I supposed to trust you when no one tells me the truth?
It's time.
I know.
Philip Pullman, l'auteur de la magistrale saga, est un de nos contemporains, comme George R. Martin peut l'être, bien que le profil des deux auteurs soit aussi singulier que différent. Philip Pullman connaît bien Oxford, puisqu'il y a fait toutes ses études et y a même rencontré sa femme. C'est peut-être pour cela qu'il décrit si bien la célèbre université dans ses textes, que ce soit dans Notre Monde ou un autre. Oxford, dans le premier tome de la saga, et donc de la première saison de l'adaptation de HBO, est un personnage que l'on suit tout au long du pilote. C'est par Oxford et ses couloirs intemporels et immortels, physiquement comme spirituellement, qu'on va découvrir Lyra, Pantaleon, dit Pan, Madame Colbert, ou encore Roger. Philip Pullman a grandi avec le deuil de son père, tué au Kenya lors d'une mission pour la Royal Air Force alors qu'il n'était qu'enfant. Cette notion du deuil, à cet âge, sera un thème majeur et du livre et de l'épilogue du premier volet de l'adaptation. Le deuil, les grandes écoles britanniques, la magie, tout semble lier la saga de Philip Pullman à celle de J.K. Rowling, Harry Potter. Mais ce serait péché par arrogance et mépris envers la profondeur de l'œuvre de Pullman, bien que d'autres thèmes soient tout aussi profonds chez Rowling. Aussi, on ne peut s'empêcher de lier la fougue, la curiosité, le courage, l'intelligence de Lyra avec ces mêmes attraits d'Arya Stark dans le fantasy de George R. R. Martin, les deux destins étant d'ailleurs tout aussi prophétiques. La perte de repères familiaux, le deuil, la solitude, le passage forcé en avance à l'âge adulte, tout fait de Lyra et Arya deux cousines éloignées de la fantasy. Le Oxford de His Dark Materials, même s'il peut laisser penser à un lointain Poudlard, a pourtant plus de similitudes avec la cité du savoir des maîtres dans Game of Thrones et les lointaines contrées du nord de His Dark Materials entretiennent un parallèle direct avec le nord du mur de George R. R. Martin ou les terres du Mordor de Tolkien. Mais Pullman, lui, ne se considère pas comme un écrivain, plutôt un conteur. Fait intéressant lorsqu'on sait qu'en anglais, conteur se dit storyteller et que le fil scénaristique d'une série se dit storytelling. Pullman, un scénariste involontaire ? Pourtant, un conteur ne saurait créer autant de doubles lectures, de parallèles ou de métaphores dans la saga His Dark Materials est remplie. C'est donc un véritable travail d'auteur, à l'exigence respectée et continue dans l'adaptation de HBO qui, par son univers visuel, rend un hommage appuyé au texte du poème anglais du XVIIe siècle de John Milton, Le Paradis perdu, Paradise Lost. Dans ce texte, Milton fait une critique voilée quelque peu anticléricale qui sera reprise par Pullman, car en effet, et si Dark Materials était aussi et surtout un pamphlet anticlérical.
Dans ce sauvage abîme, berceau de la nature et peut-être son tombeau, dans cet abîme qui n'est ni mer, ni terre, ni air, ni feu, mais tous ces éléments qui, confusément mêlés dans leur cause féconde, doivent ainsi se combattre toujours. À moins que le tout-puissant Créateur n'arrange ces noirs matériaux pour former de nouveaux mondes. Dans ce sauvage abîme, Satan, le prudent ennemi, arrêté sur le bord de l'enfer, regarde quelque temps. Il réfléchit sur son voyage, car ce n'est pas un petit détroit qu'il lui faudra traverser.
The world's changing. We've all sensed it. The prophecy is clear. Our duty is to protect the girl and boy. Wherever they are.
Something happened in this world. There's something important that connects us to this place.
People are going to be looking for us. We need to be careful.
Witches have been conspiring against the Magisterium. We must take control of this new world. Find the child.
She's in another world entirely.
You're a long way from home, Mr. Scoresby.
I've heard about your powers.
And I'm looking for a girl named Lyra.
You will need the knife.
One that could slice between worlds.
Then we better get going.
Leave the winds to me.
The child will bring the end of the Great War. It's time to unite and destroy the Magisterium.
Stop this threat. Sacrifice. Whatever is necessary.
I found her. She's in another world. Plagued by specters.
We're not safe here. I think I'm changing. We both are.
You are so like I was.
It's time to fight.
Run. The greatest war there ever was is coming.
Cette nouvelle adaptation par HBO de l'œuvre de Pullman était attendue comme le Messie, plutôt comme Lyra, par les adorateurs de l'univers, puisque conduite par HBO et la BBC, dont l'exigence et la rigueur sur les adaptations n'est plus approuvée. L'aspect sériel permet de consacrer 8 à 10 heures de programme à chaque tome de la saga, à la différence d'un film qui ne peut couvrir l'histoire qu'en 2 heures. Et ce sera d'ailleurs le problème de la première adaptation de His Dark Materials, traduite étrangement en français par À la croisée des mondes, en 2007. Dans cette adaptation de New Line Cinema, une trilogie était prévue. Mais les critiques et le public n'ont pas adhéré à cette adaptation raccourcie et omettant arbitrairement des storylines ou des thèmes pour entrer plus dans une case grand public. Tout l'aspect anticlérical est ainsi gommé, ou plutôt lissé, à la différence de l'adaptation de HBO qui reflète la critique originale de l'auteur du catholicisme presque intégriste. Ce film de 2007 est donc une œuvre avortée, puisque privée de ses deux suites, à la grande désolation des acteurs incarnant à l'origine les personnages Daniel Craig, Eva Green ou Nicole Kidman, qui proposaient une interprétation intéressante de Madame Colbert, mais évidemment trop peu construite, à la différence de Ruth Wilson qui, dans la série de HBO, 10 ans plus tard, crée un personnage tout en nuances, alternant l'identification par le spectateur et son dégoût le plus total du personnage. L'actrice avoue d'ailleurs avoir été en lien permanent avec tous les départements artistiques de la série, notamment le département effets spéciaux, fait rare pour elle. En effet, le personnage qui est relié à son âme supposée, appelé Demon, est pour sa part un petit singe, singe dont les caractéristiques physiques sont utilisées par l'actrice dès qu'elle est submergée par le désarroi ou l'émotion. Notons d'ailleurs l'excellence dans la création numérique de ces demons, que les acteurs n'avaient donc pas sur le plateau, alors que le lien avec eux est primordial pour l'histoire. Ces demons sont une autre partie de l'âme des personnages, une autre partie d'eux. Les personnages se parlent à une partie d'eux-mêmes et les acteurs parlent donc avec une interprétation d'eux-mêmes. Des demons si aboutis dans le texte de Pullman, et donc dans l'adaptation de HBO, que le spectateur est en identification avec eux. Le travail numérique étant aussi pointu que discret. C'est de mon point de vue la création numérique d'un personnage sans cesse mêlé à des prises de vue réelles la plus aboutie depuis le monde fantastique d'Oz, The Great and Powerful, de Sam Raimi avec James Franco. À l'image de l'épilogue de la première saison et du premier tome de la série, dans lequel Lyra et son double Demon sont confrontés au deuil, à l'empathie équivalente dans le cœur des spectateurs, bien que l'un d'eux soit numérique, du fait des 8 heures précédentes, à l'avantage d'une adaptation sérielle à la tension ascendante.
Je sais plus quoi faire, Roger. Aide-moi, je t'en supplie.
Il faut qu'on trouve la poussière. On la croyait dangereuse. Parce que c'est ce que disent les adultes. Et si c'était faux? Et s'il fallait la protéger?
Tu veux dire que... qu'on pourrait essayer de traverser et de trouver la poussière avant lui? Tu te rends compte de ce que ça veut dire? On serait complètement seuls.
On a toujours été seuls. Sauf quand on avait... Roger.
Le personnage de Lyra est le fil rouge de la saga, mais plus encore ce passage délicat de l'enfance à l'adolescence, de nombreuses fois traité, mais peut-être pour la première fois dans cet axe et sur cette longueur. Lyra étant le personnage principal de His Dark Materials, à la différence d'une Arya Stark emmêlée dans un pot-pourri névrotique de personnages dans Game of Thrones. Pour respecter ce passage délicat et grandir en même temps que l'actrice Daphne Keane, le tournage de la saison 1 et de la saison 2 de l'adaptation ont eu lieu coup sur coup de 2018 à 2019, inscrivant donc la série sur le long terme et vraisemblablement une adaptation de toute la saga. Ce choix de mise en scène est primordial dans l'identification du spectateur puisque Lyra grandit physiquement, intellectuellement et spirituellement sous nos yeux, véritable incarnation humaine du dicton « ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est d'ailleurs accusant le coup des leçons de l'épilogue du premier tome, et donc de la première saison, que nous retrouvons Lyra dans cette saison 2 de His Dark Materials. Si, lors de la première saison, c'est avec Oxford que les personnages nous étaient présentés, c'est par la cité entre deux mondes de Sitagiz que l'intrigue nous est ici introduite. Sitagiz n'est d'ailleurs pas sans rappeler la cité de Braavos de Game of Thrones, et les poursuites caméra de Lyra dans Sitagiz ressemblent à de nombreux points à ceux d'Arya dans Braavos. Avec cette saison 2, véritable pivot dans la mise en scène de la série, on avance un peu plus dans les métaphores et paradoxes de Pullman en les mettant directement en parallèle avec notre monde. Car si dans la saison 1, on découvrait un monde parallèle au nôtre et différent dans son vocabulaire ou l'utilisation de la magie, mais pourtant très similaire à celui que nous connaissons, de la ville d'Oxford par exemple, au terme scientifique, eh bien dans la saison 2, les deux mondes se retrouvent. Ou plutôt, Lyra est brusquement confrontée à notre monde. Et c'est là où la série prend une tournure métaphilosophique très riche. Le spectateur a en effet inconsciemment créé dans son esprit des parallèles entre le monde de Lyra et le nôtre en 2020. Mais voit ici de manière très terre-à-terre les limites des parallèles et la confrontation de choses très simples mais qui peuvent paraître si lointaines pour deux personnes qui ne vivent pas dans la même civilisation ou avec les mêmes codes. Étrange allégorie que celle de la société contemporaine du 21e siècle. Différence dans la nuance du terme « demon », par exemple, qui dans notre monde serait traduit par « démon », alors que c'est une âme dans le monde de Lyra. De même, pour le cinéma, la nourriture, les rapports à l'autorité, mais surtout les rapports au régime ecclésiastique. Car c'est bien sur ce dernier point que repose l'histoire de Pullman. Les dangers d'une autorité ecclésiastique hyper puissante dans le monde de Lyra, appelée Magistarium, en parallèle à une société sans régime ecclésiastique, la nôtre donc, mais confrontée à d'autres formes de dictature. Le harcèlement scolaire, notamment avec le personnage de Will, qui reflète par son histoire les troubles de notre société actuelle et les mettra en parallèle avec les troubles du monde de Lyra. Cette rencontre, ce choc des cultures, cette découverte mutuelle de la puberté, ces adolescents au manque commun d'un amour paternel ou maternel seront le fil rouge en double lecture de cette saison 2 qui va plus avant dans les métaphores spirituelles avec les deux symboles de l'univers, la poussière et la lessiomètre.
Me protéger ? De quoi ?
Et plus les années ont passé, plus j'ai pris conscience de l'importance de cette promesse.
À qui l'avez-vous faite ?
Je crois que Madame Coulter t'apportera ce qu'il y a de mieux, mais je ne peux pas en être sûr. Je vais donc te donner un objet. Et il faut que tu me promettes que tu n'en parleras à personne.
C'est important, Lyra, tu entends ? Il nous faut ta parole.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un alétiomètre, l'un des six qui existent dans le monde.
C'est magnifique.
C'est Lord Asriel qui l'a apporté à Jordan College, lorsque tu étais bébé. C'est un objet extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Il nous dit la vérité.
Comment ?
Ça, c'est quelque chose que Pan et toi devrez apprendre par vous-même. Mais sache qu'il est illégal s'il n'est pas approuvé par le Magisterium. Le secret est donc
non,
fortement...
Non, je ne peux pas avoir de secret. C'est à mon oncle, il voudrait pas que je l'aie de toute façon.
Lyra, regarde-moi. Les forces de ce monde sont très puissantes. Les hommes et les femmes affrontent des courants bien plus violents que tu n'imagines. Ceci, je l'espère, t'apportera un minimum de protection.
L'alésiomètre est peut-être le symbole le plus anticlérical de Pullman, adapté parfaitement, et certains diront avec courage, par HBO et la BBC. Car ce n'est ni un livre de prière, ni la méditation, ni la foi qui donneront les réponses existentielles que cherche Lyra, mais un compas, dont les symboles révèlent, tel Nostradamus, à qui on pense beaucoup dans cette saison 2, d'exactes certitudes. La vérité est donc humaine, mathématique, dans l'adaptation, comme dans le texte de Pullman.
L'objet pesait lourdement dans sa main. La surface en cristal miroitait, et le boîtier en cuivre était magnifiquement ouvragé. Cela ressemblait beaucoup à une montre, ou à une boussole, car les aiguilles tournaient à l'intérieur d'un cadran, mais au lieu de désigner des chiffres ou des points cardinaux, elles indiquaient des petits symboles. peint avec une précision extraordinaire, comme sur de l'ivoire, avec le pinceau de poil de martre, le plus fin qui soit. Lyra fit tourner le cadran entre ses doigts pour admirer chaque dessin. Il y avait une ancre, un sablier surmonté d'une tête de mort, un taureau, une ruche et 36 dessins différents en tout. Et elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils représentaient.
La musique de Lorne Balfe, que vous entendez derrière moi, est également majeure dans la mise en image de ce storytelling. Chaque personnage a son thème, son univers musical. Et en ce sens, le travail de Lorne Balfe n'est pas sans rappeler celui d'un Danny Elfman, tout en étant moins épique qu'un Rahman Djawadi dans Game of Thrones. L'ironie du sort fait que le compositeur qui travaille sur cette satire d'une certaine forme de pratique religieuse dans l'excès, donc dans His Dark Materials, eh bien travaille aussi sur une série qui, là, fait la part belle à l'importance d'une pratique de la foi religieuse et rigoureuse dans une famille et une nation, celle de The Crown. Mais prenez garde à ne pas confondre religion et spiritualité. Car si Pullman et la série de HBO assument cette critique, la spiritualité quant à elle est sublimée et sera la salvation des personnages, offrant une rédemption aux plus cruels d'âme et d'esprit. C'est notamment par la storyline de la poussière que Pullman et la série offrent un portrait tout en métaphore de la croyance aux esprits ou à une certaine forme d'au-delà, en rapport invisible mais constant avec nous. C'est d'ailleurs au cours de cette saison 2, dans les épisodes 3 et 4, que la poussière nous paraîtra bien familière, sous d'autres mots.
La poussière n'est pas une matière immuable. Il n'en existe pas une quantité bien définie. Ce sont les êtres dotés d'une conscience qui la fabriquent. Ils la renouvellent en permanence, par leurs pensées, leurs sentiments, leurs réflexions, en accédant à la sagesse et en la transmettant. Et si vous aidez toutes les personnes de notre monde respectif à faire de même, en leur enseignant à apprendre et à se comprendre, à comprendre les autres et la manière dont fonctionnent les choses, en leur montrant comment être bon et non cruel, patient, joyeux et non maussade, et surtout, comment garder un esprit ouvert, libre et curieux. Alors, ils produiront suffisamment de poussière pour remplacer celle qui s'est échappée par une fenêtre.
La série His Dark Materials, aux multiples réalisateurs, offre un casting brillant, hétéroclite, mais paradoxalement homogène, porté par Daphne Keane, vue notamment dans le Logan de 2017, Ruth Wilson, charismatique Madame Colbert, James McAvoy, loin de sa douceur dans X-Men, Clark Peters, en maître philosophique, nouvelle série HBO à son actif après les immenses The Wire et The Duchy, mais surtout Lin-Manuel Miranda, qui ramène à la série une énergie qu'il déploie sur Broadway depuis plus de 10 ans. On lui doit la comédie musicale révolutionnaire Hamilton, que vous pouvez retrouver sur Disney+, et la réinvention du personnage de Bert dans le Mary Poppins Returns de Rob Marshall. Il est intéressant de noter que Lin-Manuel Miranda a tourné ses prises de vue pour la saison 1 de His Dark Materials juste après le tournage de Mary Poppins Returns. Je m'avance donc peut-être, cependant, je note une similarité dans la folie douce de ces deux personnages, nuancée par un côté plus sombre en saison 2.
Running around with a child's mind. Woo! Man gets lucky just a couple of times. Sing it, Hester.
You're excited.
Damn right I am. Finally got a lead on Yorick.
He might not be the same bear. Yorick, I knew.
Some crazy seal hunter. Got him drunk. Tricked him out of his armor.
An armored bear is nothing without his armor.
Esther!
I'm right here. What do you see?
Looks like we're not the only ones heading to Trollison.
J'ai d'ailleurs rencontré en décembre 2018 Lin-Manuel Miranda pour la promotion de Mary Poppins Returns. Il venait à peine de terminer les prises de vue de His Dark Materials et ses projets coup sur coup semblaient lui donner plus d'énergie créatrice que de fatigue.
Involved into the movie, how was the casting process doing? When did you get into the project?
It was very early actually. Rob Marshall, my agent called me and told me Rob Marshall wanted to talk to me, and I think Rob Marshall is one of the greatest movie musical directors ever. So I said yes, and I met him between performances of Hamilton. It was a two-show day on a Saturday. I finished my matinee, and I crossed the street to have a drink with him and his partner John DeLuca, and they said Mary Poppins returns, and I said she does, and I said who's playing her? And he looked around to make sure no one else was listening. He said, Emily Blunt. And I said, oh, that's really good. And I just thought that was brilliant casting. It was the fact that it was a new musical and a new story, that there were more stories from the P.L. Travers books that had not made it to the screen was very exciting to me. And that it was that we were going to see Michael and Jane Banks grown up, you know, really appealed to me because I saw them as kids so many times. So I was in.
And how did it happen for the rehearsal? Because the ballet are amazing, so I guess Dora Machar just told me that it was a long time of rehearsing.
Yeah.
How did it happen in your schedule particularly? How did you get that fit?
Well, you know, it's interesting. It was my first really big project after Hamilton, and I went home and talked to my wife and said, is this an adventure we can go on? Our son was young, so he wasn't in school yet. So he was like 2 years old, and we were like, can we move to London and really do this as a family? And she was game for it. So it was a huge change in our lives. We moved to London in October of 2016 and began rehearsal. It was 2 months of rehearsal, which Broadway shows don't get. I mean, it was an incredible luxury because not only are you learning all of the dancing and singing that you're going to have to do when you're filming, you're also becoming a company. You're becoming a company of actors who know each other and know each other's strengths and know, and you're learning that chemistry so that by the time the cameras are rolling, you're so ready.
That's what we saw in the movie. The chemistry between you and Emily Blunt is amazing. So yeah. It from the beginning, it was like that?
Yeah, absolutely. We knew each other socially a little bit. My friend Tommy Cale, who directed Hamilton, directed her husband John in a play in New York. So I'd had drinks with them. But it's a whole other level when you're wrangling these amazing kids and you know, one day you're dancing with Meryl Streep and the next day you're dancing with penguins. I mean, we went through a lot together and it was a lot of fun.
And my two last questions, we have a lot of students of movies watching our show. Could you give us your favorite musical number of all of the movies that existed? Ooh. If you had to choose one.
I had to choose one. Oh, that's hard.
I know.
I would choose Fred Astaire's dance sequence with Sid Charisse towards the end of The Bandwagon. As someone who grew up in the 80s, you realize, oh my God, Michael Jackson took all of Smooth Criminal from this number. It's an extraordinary dance sequence, and it's like 20 minutes long, and it's thrilling.
Lin-Manuel Miranda, qui, je l'espère, nous parlera de l'évolution de son personnage en saison 3, quand nous pourrons de nouveau parler en plateau avec les artistes internationaux. His Dark Materials est disponible sur la petite sœur française de HBO OCS en US plus 24. La saison 1 est également disponible. Les textes, lus par le comédien Luca Ivula dans notre voyage avec Lyra, ont été traduits pour Gallimard par Jean Esk. Si vous avez le plaisir de lire en anglais ou la curiosité de commencer à le faire, je ne saurais que trop vous conseiller l'approche de ces textes en langue originale, la nuance des jeux de mots ne pouvant être servie par une traduction française, tout comme la version originale à privilégier quelle que soit l'œuvre. De plus, les sous-titrages d'OCS bénéficient d'une véritable recherche sur la langue, tout comme la série Game of Thrones dont l'intégrale est aussi disponible sur OCS. Pour avoir d'autres nuances d'analyse sur His Dark Materials, je vous conseille les excellents dossiers de France Info et du JDD, le journal du dimanche, autour de la série. Je vous conseille également la relecture et le visionnage du Monde de Narnia, autre petite sœur de Pullman, bien qu'écrite avant, dans le temps, et évidemment la lecture des poèmes de John Milton. The Crown, dont la musique est composée par Lon Balfe, que vous avez entendu pour son travail sur His Dark Materials toute cette demi-heure, est disponible sur Netflix pour une quatrième saison. Les bandes originales de ces deux séries sont disponibles sur les plateformes. Merci à la journaliste Mathilde Dandeux qui m'a aidé à préparer ce voyage analytique. Merci à Jason au son pour Web Radio Édition ainsi que Beta Série La Radio pour la production. Retrouvez en librairie mon analyse de la fantasy dans Game of Thrones, dans Ma folle histoire du cinéma, aux éditions Ocré. Réagissez autour de cette analyse avec les comptes Twitter, Facebook et Instagram de Beta Série et Kevin Ellerby et retrouvez des contenus exclusifs sur les thèmes et la production de la série dans les bonus OCS. C'est avec Lin-Manuel Miranda que nous nous quittons musicalement dans un numéro musical qui pourrait être une allégorie de son personnage dans les Dark Materials, bien qu'enregistré pour Mary Poppins Returns.
Let's say you're lost in a park, sure. You can give in to the dark, or you can trip a little light fantastic with me. When you're alone in your room, your choice is just embrace the gloom, or you can trip a little light fantastic with me. For if you hide under the covers, you might never see the day. But if a spark can start inside your heart, then you can always find the way. So when life is getting dreary, just pretend that you're leery as you trip a little light fantastic with me.
What's leery?
Why, it's what we lamplighters call ourselves, of course. Time to send out the call to arms. Learys, trip the light and lead the way. When you're stuck in the mist, sure, you can struggle and resist, or you can trip a little light fantastic with me. Now say you're lost in the crowd, well, you can stamp and scream out loud, or you can trip a little light fantastic with me. And when the fog comes rolling in, just keep your feet upon the path. Mustn't mope and frown, or worse, lie down. Don't let it be your epitaph. So when life is getting scary, be your own illuminary, who can shine the light for all the world to see, as you trip a little light fantastic with me.
Entourage, présenté par Kevin Ellerby. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.